Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France. Nicolas Bouzou, fondateur du cabinet d'analyse économique et de conseil Asterès, qui a publié Pour un libéralisme populaire aux éditions de l'Observatoire. Et Augustin Landier, professeur à HEC, qui a coécrit Le prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion. Ouvrage salué par le prix de la librairie de l'Écho, décerné en juin, je crois, un truc comme ça. Alors, à la réaction de Marie qui dit pour une fois, c'est pas anxiogène, il y a PLS qui m'écrit. Mais votre émission est intéressante systématiquement, c'est sympa. Et puis il y a Mathieu qui m'écrit sur le prix, sur le signal prix sur le gaz. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà, il considère que comme ce que nous vivons, c'est un peu quand même une décision politique d'avoir provoqué des sanctions vis-à-vis de la Russie, il considère que le pouvoir politique doit assumer ses décisions et donc doit compenser une partie de la hausse des prix de l'énergie. C'est ce qu'on avait dit à l'époque de Covid, quand on met toute l'économie sous cloche, sur décision politique d'un jour à l'autre, il est normal qu'à ce moment-là, le politique assume ses décisions.
Alors, je vais paraphraser Augustin Landier, dont le livre est quand même très important et résonne beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui. On peut considérer que c'est justement le prix de nos valeurs et de la sécurité, ce qui est, moi, j'adhère complètement à cette analyse, c'est... donc je pense qu'il faut l'assumer.
Parce que... Et que le gouvernement, c'est nous, quand
même. Oui, en plus.
Non, j'ai repris le prix de nos valeurs. Ceux qui disent que les sanctions contre la Russie sont inutiles, d'abord, ça n'est pas vrai. Non, c'est vrai qu'on en subit une partie de la facture, et c'est le prix de nos valeurs. Voilà. La réforme des retraites, comment vous voyez l'histoire, Augustin ? D'abord, faut-il la faire vraiment maintenant ? François Bayrou arrête pas de dire « Attendez, il n'y a pas le feu au lac, on se donne 2-3 mois ». On sait bien que dans 3 mois, il y aura zéro consensus. La CGT sera contre, la CFDT sera contre, tout le monde sera contre. Mais au moins, bon... Ou alors, est-ce qu'on y va maintenant tout de suite avec cet outil de l'amendement à la loi de...
Comment c'est intéressant, si on refait le film, donc il y avait une sorte de consensus chez beaucoup d'économistes sous le premier gouvernement Macron pour la réforme à point. Philippe Aguillon était très engagé.
Il a changé d'avis.
Ouais. Oui. Et donc effectivement, tout le monde a été un peu perdu en route parce qu'on ne comprend plus très bien l'objectif. C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif, c'est un objectif de finalement récupérer un peu de... C'est-à-dire que même si le système est en équilibre, récupérer un
comment
peu d'argent pour...
Comment c'est en équilibre.
Bon, revenons là-dessus. Mais...
Toutes les projections montrent un système dont les déséquilibres se creusent.
Non, mais après, on pourrait dire on crée un stabilisateur automatique du système tel qu'il est. Si les gens,
c'est quoi un stabilisateur automatique du système tel qu'il est ? Quand vous êtes de moins en moins d'actifs face aux retraités.
Vous payez moins les retraités.
C'est un super. Oui,
c'est non, mais c'est vers ça qu'on va de facto, de toute façon. Donc, ça, je pense.
Elisabeth Borne l'a exclu hier.
Oui, mais.
Même si on le fait souvent.
Ouais. Donc voilà, tout le monde est un peu perdu en route, je pense, sur l'objectif. C'est-à-dire que l'idée du permis à points qui allait simplifier une complexité jugée artificielle, ça, je pense que tout le monde dit, c'est une négociation impossible parce qu'il y a forcément, c'est quand même un jeu à somme nulle, qu'on le veuille ou non, il y a des perdants et des gagnants, et ça est très très dur de transpariser qui gagne, qui perd. Les gens ont beaucoup de mal à faire confiance aux projections qu'on leur donne sur est-ce qu'ils sont vraiment pas trop perdants dans l'affaire. Donc maintenant, on est en mode... y a l'intuition économique forte et qui est que les Français doivent travailler plus longtemps. Et après, moi, comme économiste libéral, j'ai jamais compris, mais comme beaucoup, ce totem de l'âge limite de la retraite. C'est-à-dire que c'est évident qu'il y a tellement de cas particuliers, tellement de manières de choisir de vivre sa vie, tellement de situations de santé différentes, tellement de configurations familiales différentes. Donc c'est évident qu'il faut que les gens puissent effectuer des choix qui ne les exposent pas à des espèces de changements drastiques de leurs conditions économiques. Et donc il faut quelque chose d'un peu linéaire. Si vous choisissez de travailler très longtemps, vous bénéficiez d'une retraite plus élevée, mais vous pouvez aussi choisir de partir à la retraite plus tôt, et il y a plein de raisons de vouloir le faire. C'est aux personnes de...
Le départ à la carte.
Donc c'est complètement évident qu'il faut aller vers ça.
Et pourtant, tous les pays ont des âges légaux de départ.
Vous pouvez mettre un espèce de seuil minimal.
Là, on joue sur les mots, seuil minimal, âge de départ.
Ce qui compte, c'est le nombre de trimestres de cotisation. Ça me semble assez, même d'un point de vue de justice et de la manière dont les gens conçoivent le système, c'est bien ça, la justice. Et puis après, de redistribuer vers ceux qui ont eu des conditions de santé, de famille, de type de travail auquel ils ont été exposés.
Donc si je vous suis bien, Augustin, il faudrait simplement accélérer la réforme Touraine sur la durée de cotisation.
Exactement, et avoir une forme de stabilisateur automatique. automatique qui dit bah il faut quand même que le
oui mais là oui mais après il faut pas utiliser des mots d'économie et stabilisateur automatique c'est bah vous voulez bah, pas changer grand chose bah vous
non,
vous toucherez moins
ça veut juste dire qu'on paye les gens à mesure des ressources disponibles point c'est pas compliqué que ça et il faut
c'est pas plus compliqué que ça
il faut un conseil externe qui calcule bon. Ce qui est raisonnable
en tout cas Elisabeth Borne hier elle a été très claire sur le pourquoi ils veulent faire cette réforme ils veulent que moins de points de PIB partent dans la retraite pour avoir du point de PIB disponible pour aller financer autre chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'auditeurs qui considèrent que l'argent d'un système assurantiel n'a pas vocation à devenir l'argent de financement de la transition verte. C'est plus compliqué que ça, Anne-Sophie Alessif.
Ce qui était intéressant dans ce que vous disiez, c'est la notion de choix. Or, le problème, il y a beaucoup de salariés, et c'est souvent la majorité, qui n'en ont pas. Par leur formation, par leur parcours, et par les entreprises ou les différents emplois, ils n'ont pas toujours beaucoup de formation professionnelle, ils ne peuvent pas forcément être flexibles, ils ne veulent pas forcément être changés. Et c'est vrai qu'en mettant tout sur le choix, en disant, en fonction des situations, on choisit, c'est, à mon sens, pour beaucoup de secteurs, ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut un âge légal de départ, peut-être l'augmenter un peu, mais attention, en l'augmentant, la vraie question, à mon sens, c'est vraiment toujours le niveau des pensions, comme vous l'avez dit. On est très focalisé en France sur l'âge de départ, alors que, en effet, tout le sujet, c'est le niveau des pensions. Pourquoi ? Là, on revient aussi à l'aspect de choix, c'est l'aspect de financement. Pour beaucoup de ménages, vous avez des emprunts à payer, vous avez encore des charges financières importantes, et on voit l'inégalité au niveau des retraités, c'est souvent entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ont accès à la santé et ceux qui ne le sont pas. Donc, là-dedans, quand on prend en compte et les problèmes d'emploi et les problèmes ensuite de financement et de charges, on voit que le choix est assez réduit. Donc, il faut l'encadrer. Et donc, je pense qu'en effet, il faut augmenter l'âge de départ. Alors, bien sûr, moi, je pense qu'en effet, financer, par exemple, la transition, ça peut être quelque chose parce que c'est vraiment un choix de société, un choix politique.
Là, il y a un projet.
Et puis, il y a un projet. Ah, oui. Et puis, l'autre élément, c'est de se dire, c'est vrai qu'à moyen long terme, hein, dans le modèle du Conseil d'orientation des retraites, vous avez plein d'indicateurs qu'on n'a pas encore. Là, on voit, par exemple, sur les gains de productivité, ils les ont revus à la baisse. Sur le taux de chômage, là aussi, les projections, c'est très difficile. Sur la natalité aussi. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on n'a pas forcément. Et se dire, en fonction de ce que l'on a, on paiera les gens. Je pense que ça peut créer vraiment une scission déjà encore importante entre les retraités et les actifs en termes de pouvoir d'achat et une scission aussi générationnelle. Donc, il faut avoir quand même un minimum vieillesse, quel que soit votre...
1100 euros, là, le minimum.
Voilà, quel que soit votre formation et votre parcours de base pour que les gens puissent vivre décemment, y compris à la retraite. Et ensuite, bien sûr, moduler en fonction de votre cotisation.
Ce que vous décrivez,
mais encore une fois, oui. C'est ce qui se passe.
Oui, mais ce que vous décrivez, c'est un système qui va vivre en déficit.
Alors,
voilà,
pas forcément,
c'est un système, on décide que c'est un système
s'il y a des
de solidarité.
Gens qui partent en effet plus tôt, et vous avez aussi des gens qui peuvent partir beaucoup plus tard. Et il y a quand même l'INSEE qui fait de très bonnes études sur l'espérance de vie en bonne santé en fonction des emplois. Et là aussi, vous pourriez moduler, de peut-être faire plus payer les gens qui peuvent en effet travailler beaucoup plus et faire partir les gens qui ne peuvent, qui peuvent pas beaucoup plus tôt. Donc c'est juste un problème d'équilibre, mais à mon sens, c'est une question beaucoup plus sociale et politique que juste économique et de modélisation.
Je ne suis pas certain qu'on ait la capacité dans un système totalement socialisé, de faire du cas par cas, du truc à la carte, un petit peu comme...
Il y a un autre facteur qui a été très utilisé par l'Allemagne, c'est l'immigration.
Oui.
Vous immigrez et vous prenez 1 million d'immigrés syriens très éduqués, vous les formez 1 an et la deuxième année, vous pouvez les taxer pour payer vos retraites.
Victorien m'écrit, la réforme des retraites passée au forceps ne serait-elle pas surtout destinée à faire joli auprès de la Commission de Bruxelles afin de continuer à creuser nos déficits sans réprimande? C'est un élément d'analyse du dossier qui est tout à fait recevable. Nicolas, vous passez en troisième sur ce sujet dont le gouvernement n'arrive pas à trouver les bonnes réponses, enfin vis-à-vis duquel le gouvernement n'arrive pas à trouver les bonnes réponses par rapport à ce qui a été dit. Il y a un moment, il n'y a pas 10 000 solutions. Enfin, soit on décide qu'on fait un big bang et qu'on fait un système à points avec de la capitalisation et qu'on passe à autre chose, ou alors on fait les bons vieux paramètres. Mais
alors on ne fera pas de big bang, ça c'est exclu, donc on fera les paramètres, c'est certain. Et de toute façon, tout le monde connaît les positions de tout le monde. Et ça fait, je ne sais pas moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que tous les ans j'ai le même débat sur les retraites, donc on connaît le sujet par cœur, on n'en peut plus. En plus, je trouve honnêtement que ce n'est pas un des sujets les plus intéressants en matière de politique publique qui soit. Enfin, je trouve qu'il y a des sujets qui sont sous-investis, comme la santé par exemple.
On parle beaucoup moins de la santé que des retraites. On considère que c'est la réforme qui permet de grosses économies
d'argent. Je vais quand même essayer de dire un truc qui tienne la route.
Essayer de dire un truc différent des autres années.
Non, mais pas différent. mais différentes, mais
non, mais je tactile,
un
là,
peu
bon.
complémentaires de oui, ce oui, mes camarades. Oui. Je trouve qu'en fait, on se focalise beaucoup sur les questions financières, et pour moi, le principal enjeu n'est pas là. On est grosso modo en période de stagflation, c'est-à-dire qu'on manque de facteurs de production, les entreprises ont des difficultés à recruter, plus de 60% des entreprises, le principal sujet aujourd'hui, c'est le recrutement dans l'industrie, mais il y a plein de secteurs de services où il y a aussi énormément de difficultés. Et donc, en fait, on voit bien que si on veut sortir de cette situation-là, il faut qu'on arrive collectivement à travailler plus. Et la question des retraites, c'est un moyen, justement, collectivement, de travailler plus. Parce que, pour voir les choses de façon un peu positive, il y a des gens qui veulent travailler plus. Alors, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le cariste, c'est absurde de le faire partir en retraite à 65 ou 66 ans. Enfin, personne de bonne volonté veut ça. Mais vous savez qu'il y a des professions où il y a un âge maximal et où les gens veulent travailler plus. Je vais vous donner un exemple concret, là encore. Je discutais de ça l'autre jour avec un professeur de conservatoire. Professeur de conservatoire, vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas aller au-delà de 70 ans. Mais vous avez plein de grands concertistes qui arrêtent de faire leur tournée mondiale à 66, 67 ans, qui voudraient aller au conservatoire, enseigner, et qui pourraient le faire, mais sans aucun problème, jusqu'à 75 ou 80 ans. Vous voyez ? Donc, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à se dire que le sujet, ce n'est pas simplement un sujet financier, c'est un sujet social, je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est aussi un sujet d'organisation économique, c'est-à-dire comment on s'y prend collectivement pour produire plus et plus longtemps. Alors derrière ça, on a un sujet qui est difficile, qui est vraiment difficile, qui est le sujet de l'emploi des seniors. Parce que, en fait, la réflexion sur les retraites, elle est rarement accompagnée d'une réflexion sur l'emploi des seniors.
Enfin, elle est toujours accompagnée sur le fait qu'on n'a pas de réponse.
Voilà. Et là, les chiffres, je vais pas vous les redonner, mais ils sont pas bons. De mémoire, on doit être à 60% pour les plus de 50, taux d'emploi pour les plus de 55 ans. Plus de 60 ans, on doit baisser à 33%, quelque chose comme ça. Pour les plus de 60 ans, pardon. Et plus de 65 ans, alors là, il y a quasiment plus personne. Je crois qu'on est à 6 ou 7%. Vous voyez, donc ça va pas. Donc c'est pas bon. Ça, c'est pas un, à mon avis, c'est pas un sujet pour l'État. Faut surtout pas
non,
que l'État s'en parle de ça. Mais c'est un très bon sujet pour les partenaires sociaux, je trouve. Alors là, puisque parfois, ils sont un peu contestataires, ils ne savent pas trop, quoi. Là, je trouve qu'il y a un champ d'études et de contractualisation, pourquoi pas, qui est très important pour les partenaires sociaux.
J'ai un auditeur qui me dit une fois de plus que quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut sortir de la répartition, aller vers la capitalisation.
Non, il faut faire les deux. Bon. Mais on fait un peu
après,
les deux.
On a le choix de le faire. Hein. On peut aussi avoir des assurances. Et,
oui, bah, l'assurance vie, c'est quand même.
Donc, il y a le choix.
Oui, mais là, je suis pas d'accord. On peut pas opter pour sortir du système existant.
Ah oui, mais on peut le faire en plus.
On peut le faire en plus. Là, c'est un argument un peu factice.
Mais l'idée,
si l'argent vous est pompé par l'État qui vous force.
Non, mais ça, c'est en effet la base. Mais après, vous pouvez le faire en plus.
Vous pouvez épargner en plus.
Non, mais là, l'idée qui est sous-jacente au fait d'acter la capitalisation qui est intégrée aux côtés de la répartition. C'est qu'une fois qu'on a équilibré, ça doit prendre 5-6 ans, une fois qu'on a équilibré la cohabitation des deux systèmes, il y a un peu moins de prélèvements pour la répartition et un peu plus de liberté pour la capitalisation. Là, ça devient une réforme structurelle. Mmh. Et c'est pas complètement aberrant. Enfin, bon. 14 minutes. On n'a pas tellement parlé de l'outil législatif. Vous seriez choqué que ce soit un amendement à la loi de finances par 49.3 ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Bah, non, mais ce que vous dites, ça fait 20 ans. Moi, j'ai compris il y a 20 ans, mais j'imagine qu'il y avait des choses avant que j'arrive.
Économiquement, donc, mais politiquement, je pense que ce n'est pas très bon.
Non, mais il faut que ce soit consensuel.
Et ce ne sera jamais consensuel.
Et on connaît les arguments des uns et des autres ?
Dans ce cas-là, il y a un problème de légitimité quand même. On peut pas. Enfin, il faut créer, disons, une masse critique de consensus.
Après, on aime bien toujours dire que ce ne sera pas quand on a quand même décalé à 62, on a dit ah là là, ce serait absolument impossible, ça s'est fait, donc il faut aussi un peu relativiser.
Il y a la loi Touraine dont parlait Nicolas Touraine, dont on parle jamais, je sais pas pourquoi, mais qui est quand même très bien faite. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sur les mécanismes automatiques dont parlait Auguste, mais il y a quand même quelque chose de cette logique-là en fait.
Ah, on est à un trimestre en plus tous les trois ans.
On n'en parle pas souvent, mais enfin, c'est quand même remarquable ce qui avait été fait à l'époque.
2014, elle est votée, elle est appliquée depuis 2020, elle prévoit d'allonger la durée de cotisation d'un trimestre tous les trois ans, et l'idée, ce serait de passer à un trimestre tous les deux ans.
De fait, les gens travaillent de plus en plus. Donc, même si la moyenne est.
L'âge de départ effectif est à 64, c'est pas 62.
L'âge moyen effectif réel, c'est 62,9 dans le rapport du corps, je crois, non ? C'est l'âge moyen.
3,9,
oui, moyen, mais par rapport au revenu, quand vous regardez par rapport au revenu, pour avoir, on va dire, le taux plein, c'est 64. Donc, on est déjà deux années au-dessus. Donc, déjà, effectivement, beaucoup de gens partent. À 64 déjà.
Le nombre de personnes qui ont une activité est encore plus élevé, donc c'est un petit peu ça économiquement qui compte. Et ça augmente, mais voilà, c'est encore loin du, de l'objectif qu'on pourrait.
Il y a un truc très très vrai dans ce que vous disiez, Anne-Sophie Alsif, c'est que chaque fois qu'il y a une réforme de retraite, tout le monde crie haro sur la réforme, même ceux qui sont dans l'opposition. Et puis une fois qu'ils étaient dans l'opposition mais qu'ils sont aux affaires, ils remettent jamais en cause la réforme qui a été passée. Non, hein. On les garde tranquillement sous le coude celle-là parce qu'on sait qu'elles sont difficiles à faire passer. Et en fait, il y en a dans toutes les familles politiques qui ont gouverné ces dernières années, on a des petites réformes de retraite. On est d'accord, si on n'était pas passé de 60 à 62 avec la réforme Fillon, on serait au moins à 16-17 points de PIB de retraite tous les ans.
Ce qui est absurde. Non, mais j'aime bien cet argument, parce qu'on voit bien que c'est quand même absurde. Si on n'avait pas fait de réforme, on aurait une part démente de nos ressources qui serait absorbée par les retraites.
Mais ce qui est marrant, c'est que là, on pourrait penser que sur ces éléments qui sont allés du tableau Excel, pratiquement, Nicolas Bouzou, même là, il n'y a pas de consensus. Non, même là, on n'est pas...
Mais on il ne peut pas d'accord. avoir de consensus pour dire combien la richesse nationale décide d'octroyer à ses seniors. Bien sûr que ce n'est pas juste un tableau Excel.
Oui, mais quand même, c'est bien plus...
Non, mais on peut juger que certains niveaux sont quand même colossaux.
Économiquement, mais là, à mon sens, c'est vraiment un débat politique et social.
On parlait de la dépense publique au début. Quand on regarde notre dépense publique en schématisant, il y a 8 points de plus chez nous qu'ailleurs et il y a 4 points de retraite sur les 8.
Ah bah oui.
Donc c'est bien pour ça qu'on veut utiliser ce levier de réforme pour envoyer un signal à l'Europe.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'un débat économique de tableur Excel.
Je suis d'accord.
Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas présupposer.
Et puis, ce qu'il y a derrière, dont on parle moins en effet en économie, c'est en effet, ça veut dire quoi la retraite, en bonne santé ou pas. On voit qu'il peut y avoir des conditions difficiles. On se souvient de l'ouvrage Les Fossoyeurs, etc. Donc, on voit que là, tout le monde y est confronté. Donc, on est dans quelque chose de social qui est beaucoup plus lourd que juste régler la question des financements. Il faut quand même le dire.
Anne-Marie me dit, la capitalisation existe depuis longtemps. Ça s'appelle l'achat de sa résidence principale.
Voilà, exactement.
Oui, il y a une partie de ça.
Oui, mais...
L'inégalité entre les retraitants de ceux qui l'ont et ceux qui
l'ont
pas.
Mais l'idée qui est derrière, c'est que, oui, mais le niveau de prélèvement obligatoire des retraites reste le numéro 1 sur la fiche de paye. Voilà.
C'est vrai.
Et ça n'a pas changé. Je ne sais plus combien c'est, mais 25%, je crois, à peu près, qui part pour la retraite. La Grande-Bretagne, 41 points de base pour le gilt, c'est l'équivalent de l'OAT chez nos amis britanniques. Une livre qui, en dépit des actions de la Banque centrale, ne cesse de perdre du terrain par rapport au dollar, et on n'est pas loin de la parité. Qui veut me dire un mot de la Grande-Bretagne? Il se passe quelque chose chez les Anglais, là. Sous quel angle vous regardez l'histoire?
Alors,
sous l'angle, heureusement qu'ils ne sont pas dans la zone euro, sinon ils nous emmèneraient dans le gouffre avec eux.
Alors, j'arrive. Je voudrais dire deux choses. Première chose, je pense que c'est très important ce qui se passe en Angleterre, qu'il faut suivre ça de très près, parce que c'est potentiellement un pays qui est en avance sur nous en matière de réaction des marchés face à une politique de finances publiques qui est pas sérieuse. Donc, ce que prévoit le budget 2023, c'est 50 milliards de baisse d'impôts. C'est plutôt des impôts sur les ménages. Il y a des annulations de hausse d'impôts sur les entreprises, mais c'est plutôt des baisses d'impôts pour les ménages, pour tous les ménages. Beaucoup baisse d'impôts quand même pour les hauts revenus.
Et 150 milliards de boucliers.
Tout ça n'est absolument pas financé. Et ce qui est intéressant, c'est que le chancelier assume complètement le fait que ce soit pas financé. C'est-à-dire, il le dit, mais moi, je suis dans une logique. C'était un peu ce qu'on appelait la courbe de l'affaire dans les années 80, où en fait, je baisse les impôts très fortement, et puis on verra, ça devra s'autofinancer d'une façon ou d'une autre.
Une courbe qui n'est pas vue scientifiquement.
Je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais les marchés ont considéré qu'il avait tort, en fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça passe pas. Donc il y a ces augmentations de taux qui mettent quand même les Britanniques dans une situation extrêmement compliquée, avec potentiellement cet effet boule de neige que vous connaissez par cœur, hein, des taux qui deviennent plus importants que la croissance nominale. On n'y est pas, mais des taux qui pourraient devenir plus importants que la croissance nominale. Et alors là, la charge de ces mathématiques, charge des intérêts de la dette,
c'est là où la dette n'est plus soutenable.
Donc ça,
on est à 4,24 sur le gilt.
Et avec ce spectre que nous n'avons pas, mais qui est très présent, je disais, la presse britannique, qui revient très souvent, c'est le fait qu'en 1976, le Royaume-Uni a fait appel au FMI pour un problème qui n'était pas très différent. Donc ça reste, j'étais frappé de ça en regardant la presse, mais ça reste assez présent dans le débat public au Royaume-Uni. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous dites heureusement qu'ils sont pas dans la zone euro. Alors c'est vrai que j'avais pas vu cette vision auto-centrée des choses. Moi, je me suis dit...
C'est de la mauvaise volonté
de
ma part.
J'étais bien plus cynique que vous. Je me suis dit, mais quelle bêtise d'être sorti de l'Union européenne, parce que malgré tout, même si l'Union européenne c'est pas la zone euro, il y a quand même implicitement une espèce d'assurance qui est conférée au fait d'appartenir à l'Union européenne, parce qu'il y a quand même des mécanismes de mutualisation, etc. Et ce que je trouve très intéressant du point de vue intellectuel et du point de vue politique, c'est que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne pour retrouver de la souveraineté économique, et ils ont perdu de la souveraineté économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent face à une quasi-impossibilité de mettre en place une stratégie de politique économique. Et pourtant, de droit, ils ont retrouvé leur souveraineté. Ils ont retrouvé leur souveraineté de droit, mais de fait, on voit que ce n'est pas le cas.
Vous évoquiez le chancelier de l'échiquier, Kwasi Kwarteng, qu'on surnomme le kamikaze. Kwasi Kwarteng, kamikaze, voilà, pour essayer de faire un jeu de mots, mais en tout cas.
Il est brillant par ailleurs, hein,
oui, mais...
faut le dire, mais c'est à l'anglaise, hein, c'est-à-dire c'est brutal, c'est un discours extrêmement brutal.
Bon, est-ce que vous considérez, Anne-Sophie Alsif, Augustin Landier, que c'est un avant-poste de ce qui pourrait arriver à d'autres pays d'Europe, que là, les Britanniques sont en train dans une glissade de non-soutenabilité de la dette potentielle? Et effectivement, ils ont connu le défaut avant l'arrivée de Margaret Thatcher. Et le FMI est arrivé à Londres. Il n'était pas simplement aux portes le long des falaises blanches.
Ce qui est frappant, mais comme souvent avec ces problèmes de perception par les marchés, c'est la recatégorisation très brutale d'une économie qui soudainement est catégorisée comme une économie de marché émergent en réalité, puisque le taux de change et les obligations se mettent à bouger ensemble, alors qu'une économie, normalement, les deux bougent en sens opposé. C'est-à-dire que quand votre devise s'effondre parce que l'économie va mal, d'habitude, on se dit la Banque centrale va relancer les choses, les taux vont plutôt baisser. Et là, on se dit, ils sont acculés, la Banque centrale va devoir augmenter les taux pour essayer de réattirer des capitaux.
Alors qu'elle a de l'avance en termes de hausse de taux par rapport aux autres banques centrales.
Voilà, donc c'est ça qui frappe les marchés, en fait. C'est le commentaire de Larry Summers sur cette espèce de recatégorisation brutale, où soudainement, vous vous trouvez en catégorie marché émergent, et puis le marché vous traite comme ça, quoi. Et donc ça, c'est très rapide. C'est pas vraiment une glissade, justement. C'est là, c'est le côté un petit peu presque instantané, quoi, discontinu.
Ça va très, très vite, une dégradation souveraine, soudaine, comme ça.
Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre, que dans nos cas, ou dans le cas de l'Italie, ça se produira très rapidement si ça se produit. Et donc il faut arriver à anticiper un peu, ne pas forcément attendre.
Oui, mais il faut être très concret, Augustin Landier. Quand vous êtes face à un risque d'incident de crédit pour un marché, alors évidemment, on n'envoie pas, comme je le dis toujours, un pays au tribunal de commerce, et on n'envoie pas une lettre de licenciement à la population. Mais quand vous êtes devant un risque d'incident de crédit, je me souviens toujours de l'exemple de l'Italie, hein. On écarte Berlusconi du pouvoir parce qu'on est monté à 7,5% sur le 10 ans italien, on met Mario Monti à sa place et ça se calme en deux jours. Mais si on ne le fait pas, on va jusqu'où? Un pays comme le nôtre qui vivra un incident de crédit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je mets 2 points de CSG, 2 points de TVA et tout est réglé.
C'est pas comparable parce que justement nous on est dans l'Europe. Là c'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on voulait regarder l'impact concret d'un pays de quitter l'Union européenne. Là on le voit, hein, quand on regarde tous les arguments des pro-Brexit, c'était en effet plus avoir forcément des immigrés européens, donc c'était pour les nommer les Polonais, les Roumains, en disant ce sera le travail aux Britanniques. Là on voit qu'ils ne trouvent plus personne pour travailler.
Ça fait pleurer les promesses d'avant Brexit et la
même. Voilà, donc là c'est vrai que là on peut l'évoluer sur les inégalités. Ils devaient avoir des grands points d'investissement parce que ce qui devait donner à l'Europe leur permettait pas de vivre, donc avec cet allègement ils devaient justement lutter contre les inégalités. On voit qu'il n'y a plus du tout de fonds structurels, donc vous avez des pans entiers du pays qui peuvent tomber en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça c'est assez concret, hein, avec le plan Covid, ils n'ont pas du tout le même plan que nous on l'a eu en Europe, et ils ont été quand même beaucoup plus touchés au début. Et puis là on le voit sur le commerce, l'idée c'était on est enfin libre, les Américains vont nous sauver et tout le monde va nous aimer. Là encore en fait on est seul, et donc on voit que les Américains sont pas là, les Chinois, on se rend compte que c'est pas forcément un super ami avec qui il faut être excessivement proche. Donc on voit que là c'est vrai que c'est intéressant économiquement, toutes les arguments pro-Brexit, on peut les évaluer concrètement et de dire voilà ce qui se passe quand vous sortez et voilà les conséquences. Et là c'est quand même assez factuel. Alors après on peut dire comme on a souvent un tropisme très anglo-saxon en France, ils s'en sortiront. Nous on aurait les mêmes choses, on dirait on est mort, donc eux ils vont toujours s'en sortir. J'entends toujours souvent ça avec beaucoup de ils ont 10% d'inflation, ils n'ont plus personne, ils vont s'en sortir. Bon, donc voilà, il n'y a pas forcément d'argument rationnel économiquement. Non, moi je pense qu'ils vont être durablement dans une crise. Ils ont aussi le problème de tout ce qui est transition écologique, hein. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup moins d'industrie, ils ont quand même perdu, même si bien sûr la finance à Londres reste très important, d'être leader dans beaucoup de secteurs, et une finance qui est aussi revenue à Francfort, aux Pays-Bas et en France. Et puis c'est surtout le côté seul. Alors là on voit que dans tous les projets de coopération ils essaient de se raccrocher au wagon de l'Europe, mais ils sont quand même très seuls dans une économie de bloc. À moyen et long terme, ça pose vraiment question.
Allez, dernière question, je la posais à Patrick Artus qui a eu une réponse, Nicolas Bouzou, immédiate. Est-ce que Jay Powell a tout simplement dit la vérité en disant que face à l'inflation, principalement salariale, il fallait du chômage et de la récession, et qu'il n'y avait dans l'histoire pas d'autre solution? Et c'est vrai que dit comme ça, quand la réponse de Patrick Artus était de dire eh oui.
Alors dans le contexte américain, je pense que c'est vrai.
Contexte américain, mais on est quand même... On attend de voir les choix de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, mais on se pose aussi un peu la question chez nous.
Quand même, le plein emploi n'est pas du tout le même aux États-Unis et en Europe. Surtout si vous regardez pays par pays.
Ils sont à 3,7 de taux de chômage.
Eux, il n'y a vraiment pas de... Puis vous le voyez aux États-Unis, vous allez dans n'importe quel endroit, partout, il y a des panneaux, on recrute avec des salaires délirants. J'étais en vacances aux États-Unis cet été, j'ai vu.
On dépasse le 15 dollars.
On recrute chauffeur de bus, 80 000 dollars par an. Et bon, donc c'est absolument lunaire. Ouais, donc là, vous voyez vraiment que vous avez une inflation qui est généralisée avec des effets de second tour un peu partout.
Donc là, c'est la solution.
Et donc là, c'est la solution. Il me semble qu'en Europe, on n'est pas. Du tout dans cette situation-là. Les effets de second tour, on commence à les voir un tout petit peu, mais c'est pas généralisé. On a des baisses de salaires réels qui sont quand même importantes dans beaucoup de pays. Et puis, vous avez beaucoup de pays où il y a encore un peu de chômage. C'est le cas en France, c'est le cas en Italie, c'est le cas... L'Espagne, c'est plus de 10% de chômage encore. Vous voyez ?
Oui, mais c'est pour ça qu'en fonction de ce qui se passera au niveau de la Banque Centrale Européenne, on peut se demander si, comme on n'est pas justement les États-Unis, est-ce qu'on risque pas... certains considèrent que la Banque Centrale Européenne pourrait aggraver la situation en continuant à monter ses taux d'intérêt. C'est ça, la question.
Tout dépend jusqu'où elle va.
À votre avis, on a une minute 20, Augustin.
Oui, non, moi, je suis d'accord avec Artus. Après, on peut dire chômage, on peut dire, c'est le taux d'emploi ou la croissance du taux d'emploi. Mais en tout cas, c'est sûr que l'économie est condamnée à être freinée dans les 2 ans qui viennent. Et que ça veut dire qu'on va créer moins d'emplois que ce qu'on aurait créé s'il ne l'était pas. Mais c'est un quasi-truisme. Je pense que, en tout cas, les banques centrales sont quand même en train d'essayer de remplir leur mandat, qui est de limiter l'inflation en décélérant l'économie. Donc on est bien dans cette phase.
La question est de savoir si on ne va pas aller trop loin. Il y a vraiment les deux écoles aujourd'hui. Ceux qui disent, on est obligé de le faire parce qu'il faut éviter les ancrages d'anticipation de l'inflation et que s'il y a un mandat, il y a un moment, il faut le respecter, sinon il n'y a plus aucune crédibilité de la Banque Centrale. Et puis il y a ceux qui disent, c'était Stiglitz, erreur historique.
À mon sens, c'est toujours la problématique inflation importée, inflation classique aux États-Unis. Donc c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, demain on règle le conflit, même si ça paraît compliqué et autres, on sera plutôt dans une phase en Europe de rebond, parce que le seul problème en Europe, c'est de ne pas avoir diversifié son mix énergétique, c'est surtout ça. On voit même pendant le Covid, en 2021, on était en dessous des 2% d'inflation. Donc en fait, on n'avait tellement pas d'inflation que quand on en a eu un peu, on s'est dit attention au loup, alors qu'avant le Covid, on était plutôt dans une phase de normalisation qu'une phase une phase inflationniste.
On n'est jamais content, Anne-Sophie. Les banques centrales ont tout fait pour avoir de l'inflation pendant des années.
Exactement,
maintenant qu'elle est là...
La situation Amérique-Europe n'est pas comparable.
On est bien d'accord. Anne-Sophie Alsif aujourd'hui, Nicolas Bouzou, Augustin Landier. Il y a eu plein de réactions. Il y en a qui me disent que les Anglais s'en sortiront.
Voilà.
Les Anglais s'en sortiront.
Mais bon, on espère.
On se retrouve demain à 9h.